Lié politiquement, électoralement et intellectuellement par la synthèse opérée par Emmanuel Macron, dépassé sur sa gauche par les promesses de Jean-Luc Mélenchon, sans qu'elle puisse ni même ne veuille le rattraper sur ce terrain, la gauche dite de gouvernement est aujourd'hui dans une impasse, au-delà de ses ressources financières désormais limitées, de ses effectifs politiques et militants réduits à peau de chagrin, la gauche française semble inaudible. Faut-il que la gauche se change les idées? Pour en discuter, nous sommes en compagnie du philosophe Francis Wolff, bonjour,
bonjour,
et de l'économiste Lucas Chancel, bonjour.
Bonjour.
À tous les deux, quel diagnostic portez-vous, Lucas Chancel, sur l'état de la gauche aujourd'hui?
Il me semble que on est à la fin d'un cycle et il semblerait que la gauche a accepté le mythe du début ou du milieu des années 90 selon laquelle les sociétés européennes, les sociétés occidentales auraient atteint un stade ultime de leur développement, donc le mythe de la fin de l'histoire, notamment véhiculé par le politologue américain Francis Fukuyama. Et à partir du moment où on accepte ce mythe, on arrive dans une situation politique où ce qui compte c'est de gérer la social-démocratie et c'est d'abandonner cette idée de transformation ou d'évolution profonde des modes de consommation, des structures de production, de notre rapport aux politiques. Et donc je pense qu'on en est là aujourd'hui, on est à la fin de ce cycle-là et ce cycle se confronte finalement à une réalité qui est celle de crise profonde également, crise des inégalités, crise environnementale, qui elle appelle à une métamorphose de l'état social, des structures politiques. Et donc la gauche doit se repositionner vis-à-vis de ces deux crises-là.
Francis Wolff, votre point de vue à ce sujet?
Il n'est un secret pour personne que la gauche dite de gouvernement se porte mal. Elle se porte mal pour des raisons circonstancielles qui ont été souvent analysées, les différentes élections. Si l'on cherche des causes plus profondes, je crois que c'est non plus un secret pour personne que la gauche manque d'un moteur dans les idées. Peut dire que c'est depuis ce qu'il est convenu d'appeler l'échec des grandes utopies communistes. La gauche est à la recherche de ce qui serait le bien. On sait grosso modo ce qui est mal, on ne sait plus vers quoi il faudrait aller. Je prendrai deux exemples. L'exemple d'une gauche qui n'est pas de gouvernement, l'exemple de Nuit Debout. Qu'est-ce qui s'est passé à Nuit Debout, je crois? Nuit Debout s'est progressivement enfoncé dans le formalisme. Il y avait là l'idée qu'il fallait refonder la démocratie, une démocratie directe, mais finalement la forme l'a emporté sur le contenu, c'est-à-dire que tout passait par la question de qu'est-ce que ce serait que d'être démocratique, de telle sorte qu'il y avait une forme vide et que c'est ce qui a parce qu'il n'y avait plus d'objectif ou de finalité. Inversement, lorsqu'on a tenté de montrer des buts ou des ces buts passaient très mal. Je prends un deuxième exemple, ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. Je n'ai pas entendu la gauche pendant toutes ces années où était au gouvernement faire un grand discours humaniste sur quels étaient à la fois nos devoirs en tant qu'être humain, les devoirs propres à la gauche de ce que c'est que l'accueil, de ce que c'est que l'internationalisme. Je n'ai pas entendu tout ça. Et pourquoi on n'a pas entendu tout ça? Parce que la gauche était paralysée par le fait qu'il ne fallait surtout pas favoriser le FN. Moyennant quoi, le FN n'a pas cessé de monter. Pourquoi il n'a pas cessé de monter? Précisément parce qu'il ne s'est jamais opposé franchement à un discours de gauche sur ces questions d'identité.
Lucas Chancel, est-ce que ce discours, disons, la gauche qui porterait un discours sur la société, sur le bien, comme dit Francis Wolff, par exemple, sur l'accueil des réfugiés, mais pas uniquement, est-ce que c'est compatible avec une gauche qui lutte contre les inégalités? Assez souvent, eh bien, on considère qu'il faut faire un choix. Est-ce que c'est votre sentiment, puisque dans le livre que vous publiez, Insoutenable inégalité, vous considérez qu'on peut associer différentes formes de lutte lorsqu'on est aujourd'hui à gauche?
Il me semble, et je fais le même constat que Francis Wolff, la première question que la gauche du gouvernement doit se poser, c'est qu'est-ce que on veut faire ensemble? Quel est notre projet de société? Quel est notre projet de civilisation? Et il me semble que il y a deux marqueurs de la gauche, de l'idéal politique de la gauche, qui sont la question de la répartition, du où placer le curseur entre sphère privée et sphère publique. Et on peut faire le constat aujourd'hui, quand on voit les niveaux extrêmes de concentration de revenus ou de richesses, dans la plupart des pays du monde, la France fait un peu exception à la montée des inégalités, même si elle en prend aujourd'hui le chemin. Et à ce titre, donc là, je publie ce livre personnel qui s'intitule « Insoutenable des inégalités », mais on va publier collectivement, mi-décembre, le premier rapport sur les inégalités mondiales, avec tout un tas d'économistes dans le monde entier, qui fera le point sur où est-ce qu'on en est sur les inégalités de revenus et de richesses. Et on voit que la France se porte un peu mieux que les autres, mais est en train de prendre le chemin des pays anglo-saxons notamment. Mais cette question de mieux répartir les richesses fait partie de l'ADN de la gauche. Et l'autre question qui est, quel patrimoine collectif est-ce qu'on se crée? Quel patrimoine collectif est-ce qu'on lègue aux générations futures? Donc c'est la question environnementale, fait aussi partie de cet ADN. Et donc, à partir de là, il y a tout un tas de politiques qui peuvent découler pour gérer ces deux questions. Mais peut-être que la gauche doit aussi se reposer la question, finalement, pourquoi est-ce que ça compte de lutter contre les inégalités? Et on a tout un tas d'études qui montrent aujourd'hui que les inégalités, au-delà de la question éthique, posent un problème démocratique. Posent un problème démocratique parce que une société inégalitaire, c'est une société qui se tend. Et c'est notamment la thèse portée par des sociologues, des politologues, des économistes américains dans un ouvrage qui s'appelle Polarized America, où il est montré que plus il y a d'inégalités, plus il est difficile de se mettre d'accord sur des sujets collectifs, transpartisans, puisqu'il y a une dichotomie dans le débat public, il y a une radicalité qui se crée.
Alors justement, Lucas Chancel, si vous souhaitiez adapter cette thèse, qui est une thèse américaine, au cas français, est-ce que elle pourrait en quelque sorte décrire une politique qui a été menée par le précédent gouvernement? Est-ce que, par exemple, cette société polarisée, on la retrouve dans la volonté de supprimer une partie de l'ISF?
Alors, si vous voulez, moi, on peut la voir sur des exemples comme la taxation sur le carbone, qui est un vieux serpent de mer de la fiscalité de la vie politique française. Depuis les années 2000, on a eu plusieurs exemples, plusieurs tentatives de mettre en place une taxe carbone, qui se sont heurtées à des levées de boucliers, notamment dans le monde rural, qui dit, vous les bobos, vous êtes bien sympathiques avec votre taxe carbone, mais nous, c'est nous qui allons en pâtir. Pourquoi? Bien parce que, notamment parce qu'il y a un décalage économique, social, peut-être culturel, entre les urbains et les ruraux. Et donc là, on a un exemple de politique qui, en fait, est de bon sens. La taxe carbone permet de mieux appréhender, de mieux se préparer en amont d'une montée des prix de l'énergie et de mieux se préparer face aux effets du changement climatique qui est rendu difficile par un contexte inégalitaire. Et aujourd'hui, si on regarde le projet de loi des finances, on voit que le gouvernement d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe proposent une montée en puissance de la taxe carbone. 3,5 milliards. S'il y a une chose qui me semble assez positive dans ce projet de loi des finances, c'est la montée en puissance de la taxe carbone. Sauf que cette montée en puissance se fait dans le cadre d'un budget qui est globalement inégalitaire.
Pourquoi
est-ce qu'il est inégalitaire? Eh bien, parce que, bon, il y a eu toute cette discussion autour de quel est le montant du chèque donné aux 100 personnes les plus riches. Bon, ce chèque a été évalué à 1,5 million d'euros.
Milliards.
1,5 million par personne.
Ah, d'accord.
Par personne. Donc, 1,5 milliard chiffré sur la flat tax par le gouvernement et 3,5 milliards sur la suppression de l'ISF. En réalité, les 1,5 milliard de la flat tax, faut quand même rappeler que c'est une évaluation qui est complètement minimaliste puisqu'elle ne prend pas en compte les comportements d'évasion fiscale massive qui vont découler du fait qu'on va vers une fiscalité qui est complètement décalée entre le travail et le capital, où on crée un écart de taxation entre les dividendes, le capital qui sera taxé à 50% après la réforme, et le travail qui sera taxé à 65%. Donc tous les individus qui seront en mesure de le faire et qui ont la possibilité de faire de l'optimisation fiscale vont choisir de se verser des dividendes plutôt que de se verser un salaire. Et là, quand on regarde les études aux États-Unis, en Norvège sur la question, on peut mesurer à peu près combien cela va induire de pertes fiscales. Et ce n'est pas 1,5 milliard, c'est plutôt de l'ordre de 10 milliards. Donc c'est un budget qui est profondément anti-redistributif. C'est une grande machine à redistribuer à l'envers.
Si vous souhaitez analyser en quelque sorte ce budget, vous considérez, Lucas Chancel, qu'il est la conséquence d'une société qui est très polarisée, du coup qui cherche à défendre des positions qui sont des positions difficilement conciliables. Il y a d'un côté un gouvernement qui va essayer de privilégier les premiers de cordée, tels comme les qualifiait Emmanuel Macron, et puis de l'autre, une gauche qui est devenue en partie inaudible.
Là, en fait, on est dans un autre mythe. On est dans ce fameux mythe du ruissellement économique, selon lequel il faudrait créer de la croissance en haut pour ensuite générer de l'activité en bas. Le problème, c'est qu'il y a quand même assez peu de bases empiriques factuelles qui nous permet d'affirmer qu'il faille faire ces cadeaux gigantesques aux 100 personnes au sommet de la pyramide sociale pour qu'ensuite on puisse créer de l'emploi, de l'activité.
Alors ça, c'est une interprétation. L'autre interprétation qu'on pourrait faire de cette réforme de l'ISF, ce serait de considérer par exemple que le gouvernement d'Emmanuel Macron veut montrer par là qu'il n'est plus hostile aux affaires, qu'il est pro-business, comme on dit, et donc pro-business en modifiant l'ISF, par exemple, en sortant les actions du calcul de l'ISF, un peu en quelque sorte comme si on était à l'inverse de la politique menée par François Hollande, qui lui souhaitait mettre en avant une fiscalité à 75% sur les salaires supérieurs à 1 million d'euros. De la même façon, il y aurait des symboles qui seraient agités de part et d'autre. Est-ce que cette analyse-là peut vous paraître convenir à la situation telle qu'elle est aujourd'hui sur l'échiquier politique ?
Oui, mais pourquoi est-ce que le gouvernement veut montrer qu'il est pro-business ? Je pense qu'au fond, il veut montrer qu'il est pro-business parce que en étant pro-business, on va créer de l'emploi, on va relancer l'activité économique. Mais il faudrait que le gouvernement nous démontre véritablement que ça a un impact sur l'emploi, que ça a un impact sur l'activité. Or, quand on regarde les études empiriques en économie sur la question, on ne voit pas cet effet. On ne voit pas de fuite massive des très hauts revenus vers les pays étrangers quand il y a une hausse de l'ISF. Ce qu'on voit, c'est plutôt une montée extraordinaire des inégalités dans tous les pays qui ont opéré ces évolutions de la fiscalité vers moins de progressivité et vers plus de régressivité. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la fiscalité française, elle est déjà régressive. C'est-à-dire que le taux effectif d'imposition sur les plus hauts revenus est en fait plus faible que sur celui de la classe moyenne. C'est déjà le cas. Donc là, on va encore réduire ce taux.
Francis Wolff, lorsqu'on parle de mesures de gauche, d'idées de gauche, il y a également des utopies qui sont aujourd'hui très présente dans la société. Vous évoquez par exemple l'utopie animaliste dans votre livre « Trois utopies contemporaines ». Et là, on voit effectivement que dans une politique qui peut être menée, l'une des idées, c'est de faire le bien, et faire le bien par rapport aux animaux. Est-ce que ça, c'est une idée qui pourrait servir la gauche, servir la droite aussi d'ailleurs, si celle-ci souhaitait s'en emparer ?
En tout cas, c'est une idée qui se revendique d'une certaine tradition, au moins en parole et par un certain nombre d'idées ou de syntagmes d'une certaine tradition révolutionnaire. Si vous voulez, si on définit la tradition révolutionnaire par le syntagme casser l'histoire en deux, on a toujours fait comme si il faudrait désormais faire comme cela. Ça a été longtemps un mot d'ordre de la gauche révolutionnaire. Ça a été encore repris par les maoïstes. Évidemment, ça prend moins dans la politique au sens strict. Mais on retrouve ce syntagme ailleurs. On le retrouve par exemple dans les mouvements abolitionnistes. Ce que j'entends par animalisme, c'est pas la défense du bien-être animal, c'est l'abolition, c'est-à-dire l'idée que on a toujours exploité les animaux, désormais, il faudrait en finir avec cela. Et vous allez retrouver tous les slogans traditionnels de la gauche révolutionnaire, c'est-à-dire les animaux sont les dernières victimes, représentent le aujourd'hui le prolétariat parce qu'ils sont en bout de chaîne de l'exploitation, et au-delà des oppositions, des inégalités de classe, de genre, il y a quelque chose d'encore plus fondamental qui est l'inégalité, l'exploitation, la domination que nous exerçons tous sur les animaux. Donc là, on va retrouver dans ces théories ou dans ces idéologies ces vieux syntagmes de la gauche révolutionnaire, mais mis au goût du jour. Et bien entendu, dans ce que j'appelle les deux autres utopies, une utopie beaucoup plus individualiste et beaucoup moins héritière de la gauche, sauf d'une certaine gauche libertaire, hein, une gauche libertaire, vivre sans temps mort, jouir sans entrave, on va les retrouver dans l'utopie post-humaniste, c'est-à-dire vaincre, que chacun puisse vaincre la maladie, la mort. Là, on va retrouver un certain nombre de slogans, d'idéaux du bien absolu, hein, qui étaient ceux d'une gauche libertaire.
C'est un peu ironique quand vous dites le bien absolu, parce que l'idéologie post-humaniste, elle n'est pas perçue généralement comme incarnant le bien. C'est plutôt une utopie qui fait peur pour une bonne part d'entre elles, en tout cas.
Oui, écoutez, je distingue trois sortes d'éthique. Une éthique de la première personne, une éthique de la deuxième personne, une éthique de la troisième personne. Dans une éthique de la première personne, ce que vous cherchez, c'est vous cherchez votre bien, vous cherchez le bien. C'était un peu le cas des éthiques de l'Antiquité. Hein. Qui dois-je être? Qui veux-je être? Dans l'utopie post-humaniste, je cherche pour chacun, et d'abord pour moi-même, le bien qui serait de vaincre les maladies, de vaincre la mort, de ne plus jamais souffrir, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est en effet viser le bien. Si le mal, c'est la maladie et la mort, hein, le bien, c'est l'immortalité. Bon, dans le deuxième type d'utopie, ce que j'appelle les utopies fondées sur une éthique de la seconde personne, l'animal, d'un côté, c'est celui à qui je dois par pitié, par compassion d'une part, et d'autre part parce que nous sentons coupables du mal que nous leur faisons. Hein, c'est une éthique de la seconde personne. Le bien, ce serait d'abolir toute forme d'exploitation, quelle qu'elle soit, jusque à l'exploitation des animaux. Et dans la troisième utopie, dont on reparlera sans doute, eh bien, c'est casser l'histoire en deux. Il y a toujours eu, la politique s'est toujours faite dans un État, elle devrait être la politique du monde, le cosmopolitisme.
Et sont les utopies cosmopolitiques, effectivement, on en reparlera aux environs de 8h20 avec vous, Francis Wolff. Trois utopies contemporaines, c'est le livre que vous publiez chez Fayard, tandis que l'économiste Lucas Chancel, qui est à vos côtés, publie Insoutenable inégalité pour une justice sociale et environnementale aux éditions des Petits Matins. On vous retrouve donc tous les deux dans une vingtaine de minutes, car il est 8h sur France Culture.